Il était une fois l'histoire d'un CFO expérimenté qui souhaitait créer un outil qui allait révolutionner avant toute chose son quotidien en matière de reporting, mais potentiellement aussi celui de tous les directeurs financiers. Devenir CEO d'une entreprise n'était donc pas une fin, mais un moyen d'accomplir son rêve pour ce directeur financier qui est d'ailleurs la preuve vivante que rigueur et humain peuvent aller de pair en business. Comment Hugues Van de Peut a-t-il réussi ce challenge? En quoi son bagage financier a été un allié dans son aventure? Nous accueillons le CEO d'Emmasphere dans ce nouvel épisode de Once Upon a Business. Bienvenue sur Once Upon a Business, le podcast qui explore les stratégies business et les retours d'expérience des experts financiers. Je m'appelle Florence et j'anime cet épisode pour Once Upon a Business, un podcast créé par Emmasphere, plateforme SaaS de reporting pour les financiers. Avec ce podcast, nous vous proposons un condensé des parcours de femmes et d'hommes qui osent. Apprentissage, conseils et même morale de leur histoire, si vous restez jusqu'à la fin, vous saurez tout. Hugues, bonjour.
Bonjour Florence.
Je suis ravie de t'avoir aujourd'hui au micro pour un épisode de Once Upon a Business.
Moi aussi, je suis très content d'être avec vous.
Pour donner un petit peu de contexte à nos auditeurs, Hugues, tu es donc CEO et cofondateur d'Emmasphere, qui produit ce podcast Once Upon a Business. Donc, on a la chance de pouvoir travailler ensemble depuis 4 ans maintenant. Donc, je te connais très bien. Je te connais en tant que personne, mais aussi en tant que manager. Mais pour les éditeurs qui nous écoutent, peux-tu te présenter?
Oui, mais alors avant toute chose, je voudrais d'abord te remercier, Florence, parce que franchement, cette introduction quelque peu flatteuse et aussi pour le travail que tu as accompli avec Laurie, c'est fantastique. Quand on a lancé cette initiative Once Upon a Business, on ne savait pas où on allait arriver, on ne savait pas où on allait, qu'est-ce qu'on allait couvrir comme sujet, comme quels invités on allait avoir, mais vous avez fait un travail formidable.
Et c'est
franchement,
gentil.
C'est une très belle réussite.
Merci. Et je suis sûre que Laurie sera très contente d'entendre ton petit mot aussi.
Oui, oui, ben, elle le mérite amplement. Alors, tu m'as demandé comment est-ce que je me présente. Alors bon, comme tu l'as indiqué, j'ai été CEO et je suis CEO et cofondateur d'Emmasphere depuis bientôt 10 ans, puisqu'en septembre, Emmasphere aura 10 ans. Emmasphere, c'est le résultat d'une expérience de plus de 20 ans au sein de départements financiers dans différentes entreprises. Alors, ça, c'est la partie professionnelle, mais de la partie, je dirais, plus privée, qui a un gros impact sur ma vie professionnelle. J'aime le contact humain. Ça, c'est pour moi très, très important. Passer du temps avec des amis, écouter de la musique, faire des balades en forêt pour me ressourcer principalement. Avoir des discussions enflammées avec des amis, des collègues ou dans la famille, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et quelque part, pour moi, si je voulais un peu résumer ça, c'est j'adore le carpe diem, en fait. Et la famille est très importante pour moi, et c'est là que la boucle est bouclée. Et je vois Emmasphere comme une grande famille. Et j'essaye que cette valeur se ressente dans le day-to-day de l'entreprise.
Je te reconnais bien dans cette présentation. Par rapport à Emmasphere, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus, présenter l'entreprise et en quoi notre solution Emmasphere est une solution unique?
Alors, Emmasphere est une plateforme de reporting financier. J'espère que maintenant, la plupart de nos auditeurs le savent. Et elle a été créée pour les CFO qui rencontrent des difficultés au niveau de la collecte, la centralisation, la structuration et la visualisation de leurs données. Il faut savoir que quand on a lancé Emmasphere, beaucoup d'entreprises étaient encore avec Excel, surtout dans les PME, et à l'époque, les PME wallonnes, les PME belges. Maintenant, Emmasphere, depuis 10 ans, se connecte à une multitude de logiciels comptables, mais également à des outils métiers comme les CRM, les outils de ressources humaines, les ERP. Et elle permet de générer des tableaux de bord fiables sans partir d'une feuille blanche. Ça, c'était vraiment très important quand on a lancé Emmasphere. Nous avons ensuite, au long de toutes ces années, de ces nombreuses années, et des expertises qui sont venues se rajouter dans le projet, on a à peu près plus de 200 KPI financiers et opérationnels qui permettent de gagner un temps non négligeable en implémentation, mais en efficacité aussi pour le CFO. Emmasphere intègre également des fonctionnalités telles que la consolidation, très appréciée de la plupart de nos clients, des prévisionnels de résultats, des prévisionnels de trésorerie et bien d'autres choses encore. En bref, le slogan d'Emmasphere, c'est moins de temps sur la collecte des données et sur la création du dashboard, mais plus de temps sur l'analyse de ces résultats et justement aider le CFO à mieux voir la performance de son entreprise. Et Emasphere, c'est aujourd'hui une société, je pense, d'à peu près 60 collaborateurs. Et on est sur trois bureaux principalement. Évidemment, à Louvain-la-Neuve, c'est là qu'on a la plupart de nos personnes.
En Belgique, pour les auditeurs exactement. Français qui
oui,
nous écoutent.
Oui, c'est juste. Et à Gand, sur la partie néerlandophone, puisque pour nos auditeurs français, évidemment, la Belgique a deux parties linguistiques et c'est important d'être sur les deux parties. Et puis, on a un bureau sur Paris aussi, où, à partir duquel on couvre le territoire français. Sinon, on a à peu près plus ou moins 10 000 entreprises, hein, 10 000 sociétés qui sont gérées sur la plateforme Emasphere.
Qui bénéficient donc d'un gain en efficacité pour leur reporting financier. Merci Hugues. On parle ici beaucoup d'Emasphere. Comment tu es devenu CEO d'Emasphere, justement?
Alors, je pense que comme tu me connais, ma finalité, ça n'était pas de devenir CEO, hein, mais c'était vraiment de résoudre un problème qui avait un peu empoisonné ma vie d'ex-CFO pendant pas mal d'années, et de CFO d'Emasphere d'ailleurs pour le moment, puisque j'ai aussi ce rôle-là pour le moment. Tout au début d'Emasphere, nous étions deux à partager la fonction, et c'est naturellement avec le développement de l'entreprise, le nombre de personnes, les marchés à couvrir, que j'en ai pris seul la position. Mon parcours, comme je l'indiquais précédemment, était plutôt dans des fonctions financières. J'ai commencé dans une brasserie. Et c'est peut-être de là que m'est venu le carpe diem.
Et c'est peut-être de là que viennent nos fameux after-work.
Possible aussi, oui. Mais donc, mes blagues à part, c'était une première expérience formidable pour moi. Parce que dès le départ, je me suis trouvé dans la partie, je dirais, de la finance qui me va le mieux, c'est-à-dire l'amélioration de la performance. J'étais en charge du contrôle de gestion de l'usine, qui à l'époque était à Glin en Belgique, de nouveau pour les Français. Et c'est sans doute là que ça a été un déclencheur pour ma vie professionnelle, l'analyse des résultats, l'analytique, est très orientée vers la gestion de la performance, comme je l'ai dit avant. Alors, j'ai compris aussi, dans cette fonction-là, qu'on ne fait pas ça tout seul. Et donc, c'était très important pour un contrôleur de gestion, et après, en tant que CFO, c'est de travailler en équipe. Et je pense que c'est une des valeurs qu'on a mis chez Emasphere, qui est le One Team, vient de mes toutes premières années professionnelles, parce que là, j'ai appris à devoir travailler en équipe, en fait. Rien ne se faisait tout seul, l'équipe était très importante. Ensuite, j'ai pris une décision, je crois, la plus importante dans mon parcours professionnel, c'est que j'ai décidé de faire le chemin vers Luxembourg. Alors, c'est pas très loin, évidemment, un Américain m'entendrait, il dirait Luxembourg, c'est pas très loin, mais bon, pour moi, c'était quand même important, ce changement. Et je suis notamment parti là-bas parce que j'avais un challenge dans ce que j'aimais, c'est-à-dire qu'on me proposait une position de financial controller. C'était une filiale d'un groupe anglo-saxon et donc ils avaient besoin de quelqu'un pour lancer et mettre en place un reporting pour gérer la partie continentale. Hein, on était appelés les continentaux par les Anglais. Hein, c'était une boîte anglaise. Et donc de là, on a construit un reporting et la société a commencé à grandir à partir de Luxembourg. Et on a commencé à ouvrir des bureaux un peu partout en Europe. Et il fallait gérer, évidemment, d'un point de vue reporting, produire les chiffres pour la maison mère, mais aussi pour le responsable continental de la société. Et donc, c'était une fameuse expérience en termes de mise en place, je dirais, d'un outil de gestion pour le groupe. Et puis, la deuxième partie qui est évidemment très importante pour la suite de mon parcours, c'est que c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Didier Van Kerbergen et Antoine Duchâteau, comme tu le sais, qui sont les fondateurs avec moi d'Emasphere. Et donc, c'est là que je l'ai appris à les connaître, à travailler avec eux. De nouveau, l'équipe revient très proche. On avait beaucoup d'échanges entre nous trois pour faire avancer la société. Et donc, en 95, pour nos amis français, il est apparu important pour moi de suivre ces personnes-là. Je ne sais pas, j'avais un feeling que, alors que j'étais quand même CFO au moment où j'ai quitté, j'étais CFO du groupe Continental, je suis reparti à zéro en fait. Et j'ai décidé de les suivre dans leur aventure Odyssée Financial Solutions, toujours à Luxembourg. Et là, on est vraiment parti d'une feuille blanche, eux sur la partie développement du business et moi sur la partie financière parce qu'il y avait tout à faire. Et donc, on est devenu, suite à ce parcours, en une petite dizaine d'années, on est venu quand même leader pratiquement mondial dans la gestion de portefeuille pour les établissements bancaires. Et on gérait 17 entités. Donc, de là est venue aussi la consolidation multi-devises qui était très importante pour nous. Et on a aussi eu dans notre actionnariat, au fur et à mesure, des fonds qui sont venus et qui ont trouvé très important d'avoir un reporting pour gérer son entreprise. Et ils étaient toujours épatés par le reporting qu'on produisait. Mais il faut savoir que ce reporting était en Excel et que, malgré qu'eux étaient contents, il était quand même produit avec beaucoup de douleurs et beaucoup de tâches répétitives.
Derrière se cachaient des sueurs.
Des sueurs, des nuits blanches parfois. Bon, c'était assez épique pour le produire, je dirais. Et donc, voilà, à partir de cette expérience-là, ce vécu, on a évidemment racheté des entreprises. Donc, j'ai rajouté, je dirais, des cordes à mon arc pour des choses que je n'avais encore jamais fait. Et in fine, j'ai aussi été fort impliqué dans la revente de la société et l'intégration avec les nouveaux acquéreurs. J'ai passé 10 mois à justement, de nouveau, un travail d'équipe, faire passer, je dirais, les connaissances vers l'acheteur. Et ça a été aussi un enrichissement pour ma vie professionnelle et j'ai appris beaucoup de choses. Et donc, ce vécu, alors aussi une plus grande maturité, hein, puisque ça fait une dizaine d'années, donc j'avais passé la quarantaine et j'approchais déjà de la cinquantaine. Et donc, avec cette maturité, j'ai pensé que c'était le moment de me mettre à mon compte. Et donc, pendant 2 ans à peu près, je me suis mis un peu comme CFO part-time et j'ai accompagné des plus petites entreprises, des plus petites structures, des plus grosses structures avec lesquelles j'ai pu travailler. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient un petit peu les mêmes problèmes que j'avais rencontrés. Donc, c'était quand même, je dirais, un bon test pour se dire, on va lancer Emasphère et on va essayer de faire quelque chose avec Emasphère.
La puce à l'oreille qui dit que ce problème n'est pas que chez toi, voilà, mais exactement. Répétitif. Merci Hugues. Alors, des projets au sein d'Emasphère, depuis 10 ans, on en a eu énormément. Mais je me rappelle très particulièrement quand on a lancé ce projet de podcast, ça a été vraiment une étape qui a concrétisé la volonté de créer une communauté autour du CFO et de vraiment rassembler des CFO autour de leur expérience, leur histoire. D'ailleurs, je me rappelle que à ce moment-là, tu étais tout de suite un des premiers adhérents au projet. Tu avais tout de suite soutenu le concept. Et je sais d'ailleurs que tu es un grand fan de Once Upon a Business. Tu écoutes de nombreux épisodes, si pas tous. Mm-hmm. Et donc, c'était une chouette idée de repartir de certains moments forts de précédents épisodes pour un petit peu retracer le sujet principal de ce podcast. Pour commencer, je te propose qu'on reparte de la genèse Emasphère et un peu de l'histoire du projet, comment il est né. Et ça va faire clin d'œil à l'épisode de Romain Prévost qui nous disait que selon lui, les premières étapes indispensables à tout projet professionnel, c'était 1. De trouver un marché innovant, 2. De disposer des moyens financiers et troisièmement, un réseau de qualité. Donc, peux-tu nous dire comment le projet d'Emasphère est né concrètement ?
On en a un petit peu parlé juste avant, mais l'idée, bien qu'étant la suite logique de mes différentes expériences professionnelles, en tant que financier, ça avait un sens, je dirais, le projet Emasphère. Il est né quand je travaillais chez Odyssée. Définitivement, j'ai été d'abord le comptable, le financial controller, parti d'une feuille blanche, je suis devenu le CFO de l'entreprise. On consolidait énormément de sociétés, je le répète, on avait un reporting mensuel, on avait une gouvernance qui devenait de plus en plus forte avec le fonds qui avait participé aux diverses augmentations de capital durant la vie d'Odyssée. Et donc, c'était évident qu'à ce moment-là, on avait un besoin d'un outil performant. Et donc, je dirais que la genèse, elle est là. Elle était encore, je dirais, dans une entreprise qui faisait son reporting en Excel, mais le besoin était déjà présent. Alors après, comme je l'ai dit, en tant que CFO part-time, je me suis rendu compte qu'il fallait que c'était un besoin qui n'était pas unique à Odyssée, mais que c'était un besoin, en règle générale, dans le monde de l'entreprise, et encore plus vrai, dans le monde de la PME. Et la digitalisation, enfin, tout ce qui est venu par la suite a confirmé, je dirais, ce projet. Je voulais éviter au CFO d'avoir des tâches répétitives et pour être honnête, sans grande valeur ajoutée directe, je m'en suis rendu compte quand j'étais CFO, je passais beaucoup de temps à collecter l'info plutôt qu'à l'analyser. Or, c'est le boulot une partie du boulot du CFO. Ce n'est pas que du reporting, mais une partie de son boulot, c'est du reporting sur base de données. Et pour avoir la donnée, ben, il faut la collecter. Et quand le CFO doit faire cette tâche-là, c'est vraiment perdre son temps. Donc voilà, Masser, pour moi, est devenu évident et le projet pouvait démarrer à la suite de toutes ces expériences.
Tu avais donc trouvé le fameux marché dont faisait référence Romain Prévost. Alors, avant de devenir une scale-up, MSFR était une jeune start-up. Comment t'es-tu assuré de garantir le succès de cette jeune entreprise, de trouver les financements? Et en quoi, à ce moment-là, ton bagage financier s'est avéré être une force? Ici, je fais référence au passage de Pierre Mariage, donc le CFO de Selectra, qui se confiait dans un autre épisode sur ses doutes quand il a quitté le monde des gros cabinets comme KPMG pour une start-up. Est-ce que c'est quelque chose que tu as partagé?
Alors là, oui, tout à fait, parce que je pense qu'il y a toujours une sorte d'appréhension à se lancer, en fait. On a un boulot confortable, hein. Moi, j'étais CFO d'une boîte qui avait quand même pas mal de pignons sur le marché, et donc il fallait se dire, est-ce que je pars pas. J'avais aussi une famille, j'avais deux enfants qui étaient à l'université, donc voilà, il faut faire le pas, et à un moment donné, il faut se lancer. Donc on réfléchit assez vite, je dirais, au projet. Le projet commence à prendre forme. L'entourage familial et professionnel est enthousiaste à l'idée. Et donc, on se dit, allez, on y va. C'est le moment ou jamais. Je répète, j'étais déjà proche de la cinquantaine. Pour moi, c'était le dernier changement pour vraiment me lancer.
Pour la cinquantaine.
Voilà. Et j'avais quand même toujours l'esprit d'entreprendre, parce que pour moi, Odyssée, c'était déjà une entreprise, même si j'étais pas à la base. Tout au début, c'était déjà très important. Et donc, je dois dire, donc ça, c'est sur la partie, on y va et on a des doutes, mais il faut y aller. Mais je dois dire aussi que j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours, c'est que j'ai rencontré justement, et je le répète, Antoine, Didier et d'autres qui m'ont aidé grâce à leur réseau. Hein. Avoir un réseau, je pense que pour les jeunes, c'est le plus compliqué, mais c'est vraiment quelque chose d'important parce que ça permet deux choses. Hein. Ça, évidemment, l'aspect financier est important, mais ça amène aussi des gens qui vont valider votre projet. Et ça, c'est capital pour... il faut pas être le seul à se dire, oui, j'ai la bonne idée, mais est-ce que on a des gens avec nous et qui nous suivent? Donc, ça, c'est la partie, je dirais, réseau. Mais évidemment, je reviens à ça, mais ma vie professionnelle était un atout parce que j'ai été effectivement CFO. J'ai travaillé très proche avec des CEO. Donc, j'avais quand même l'expérience de ce que c'était que gérer une entreprise. Je connaissais les éventuelles embûches, hein, comment gérer les problèmes, profiter des opportunités qui se présentent sont évidemment un plus avec le bagage et l'expérience qu'on a au bout d'autant d'années. Alors, le principal défi que j'ai rencontré, hein, je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens le disent, c'est évidemment, on doit un peu sortir de sa zone de confort. Et pour moi, hein, Florence, je crois que tu as bien vécu ça avec moi depuis 4 ans. C'est quand même quelque chose que j'ai dû faire venant d'une fonction plus financière. Ben, j'ai dû évidemment comprendre le marketing, comprendre les ventes, hein, pas toujours évident, comprendre la R&D aussi. C'est quand même des profils de personnes qui sont complètement différentes. Et ça, c'est un challenge, mais c'est très enthousiasmant parce que franchement, ça permet justement d'élargir ses connaissances. On ne sera jamais un expert dans le sujet, mais on apprend beaucoup de choses, on apprend à travailler avec des personnes, et ça, c'est vraiment génial.
Et donc, tu parles de cette importance de comprendre, ce que je reconnais effectivement chez toi, tout en gardant la notion de confiance quand même toujours avec toi. Mais il y a aussi cette capacité de remise en question et d'ouverture d'esprit.
Oui. Alors, je suis intimement convaincu que je ne peux pas tout connaître et que personne ne connaît tout dans tout et que justement, on en revient à l'équipe, c'est vraiment très important. Et je pense que la combinaison d'expériences, de vécu, de caractères qui font la richesse d'une idée, hein, c'est vraiment ça qui permet d'alimenter un projet, de l'enrichir. Et si on parle d'un projet, c'est vrai aussi pour une entreprise. Et donc, plus on a de gens intéressants et plus de gens vous apportent quelque chose, plus le projet sera riche. Et ça, c'est vraiment très important. Et ça a vraiment été pour moi le fil conducteur d'Emasphère.
Alors, ça me permet justement de faire le lien avec le sujet suivant sur l'importance d'une équipe. Peux-tu nous partager ta vision par rapport aux valeurs de ton entreprise, l'importance de l'humain dans le management et comment ça impacte la vie quotidienne de tes employés? Donc ici, je fais lien avec l'épisode de Manon Monod, qui est directrice groupe de la veille concurrentielle chez Schneider Electric, qui soulignait dans son épisode vraiment l'importance, oui, bien sûr, des hard skills, mais plus important, des soft skills aussi, et du match avec avec l'équipe et l'entreprise.
Oui, je suis assez d'accord avec cet épisode-là, d'ailleurs, que j'ai bien aimé. Je parlais de l'importance du socle financier précédemment, hein. C'est évidemment important parce que c'est autour de ça qu'on a lancé le projet. Mais évidemment, Emasphère est une plateforme de reporting financier, mais ce qui est important chez Emasphère, c'est que cette plateforme, elle a été développée par des personnes et donc par une équipe. Donc l'humain, on est vite rattrapé par l'humain, et tant mieux d'ailleurs. Donc c'était vraiment très important pour Emasphère. Et je dois dire que selon moi, c'est une des choses qui est la plus stimulante dans la vie d'une entreprise, c'est travailler en équipe. C'est parfois ça, c'est challenge parfois, c'est défi, mais c'est vraiment très important pour la suite de l'aventure Emasphère. On ne peut pas la faire tout seul, hein, je le répète, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je pense que c'est vraiment vrai. Et j'en reviens, à l'esprit de famille qu'il faut créer dans Emasphère. C'est ça qui nous permet d'avancer, je pense. On a rencontré des défis, on en aura encore, mais je pense que si on travaille en équipe et qu'on est content de venir à son travail, c'est vraiment le plus important.
Merci Hugues et merci d'avoir, grâce à cette interview, remis en lumière certains passages de nos précédents épisodes. On va passer aux questions traditionnelles de fin. Alors, qui considères-tu comme le mentor de ton histoire ?
Alors, je me rappelle que tu m'avais dit que j'aurais ces questions-là, et donc j'ai un peu réfléchi. Et quelque part, je ne voudrais pas citer de nom, parce que je trouve qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu une importance dans ma vie professionnelle. Mais je pense que justement, c'est le fait de rencontrer beaucoup de ces personnes qui m'a permis d'être où je suis maintenant. Donc, ce n'est pas une personne en particulier, et je pense que les personnes qui me connaissent savent bien que je pense à eux quand je dis cette phrase. Donc, j'ai pas besoin vraiment de les citer. Mais j'ai quand même envie de mentionner deux personnes, mais plutôt dans ma famille, en fait. Je crois qu'ils m'ont vraiment apporté beaucoup et ils m'ont soutenu dans des moments particuliers de ma vie, plus jeune, plus mature. Et je vais commencer par mon père, qui a été un déclencheur dans ma carrière et m'a ouvert l'esprit à beaucoup de choses dans la vie. Et puis, il a surtout été là quand j'ai eu des moments difficiles pour choisir ma carrière, choisir mon parcours, je dirais, mon premier parcours professionnel. Ensuite, je pense que la personne très importante, c'est mon épouse, Sylvie, que tu connais.
À qui je remets le bonjour, si elle nous écoute.
Et qui est venue un peu travailler chez nous, nous aider, mais elle m'a soutenu et guidé plusieurs fois dans cette aventure Emasphère. Et je dois dire que parfois, elle a été mon souffre-douleur, en dehors des heures de travail, à la maison. On parlait beaucoup Emasphère, peut-être un peu trop, mais en tout cas, merci à elle. Elle m'a vraiment aidé beaucoup.
C'est un chouette clin d'œil. Par rapport à ta potion magique, as-tu une potion magique ou une botte secrète ?
Alors, je pense pas que c'est une potion magique, je pense pas que c'est une botte secrète. Ça va être étonnant parce que beaucoup de personnes, et c'est normal, et j'aime beaucoup le sport, mais j'en fais moins pour le moment. Et donc, pour moi, je vais répondre un peu différemment à cette question. Et je pense que c'est ma botte secrète, c'est de me lever tôt. Alors, je me lève tôt parce que c'est le meilleur moment pour moi. Je suis au calme, je suis en train de prendre de l'énergie, je peux penser à beaucoup d'autres choses, je peux parcourir un certain nombre d'emails, je suis au calme et ça me va très bien. Et comme on le dit, il y a une citation qui dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, et je pense que c'est un peu le dicton de l'histoire.
Et justement, la dernière question, c'est quelle est la morale de ton histoire ?
Alors, je dirais plutôt un fil rouge à l'histoire d'Emasphère. C'est une citation que j'ai découverte grâce à une collaboratrice chez Emasphère d'ailleurs, mais qui est géniale comme citation, et auquel j'adhère à 200%. Elle vient de Phil Jackson. Phil Jackson, c'est un très bon joueur de NBA, mais surtout un excellent entraîneur de NBA. Il a été 11 fois champion de NBA avec deux clubs différents, les Bulls de Chicago et les Lakers de Los Angeles. Et lui, il disait, la force de l'équipe réside dans chacun de ses membres, la force de chaque individu est l'équipe. Voilà, la boucle est bouclée.
Une très belle citation pour terminer ce podcast. Merci Luc, à bientôt.
Merci Florence.
Once Upon a Business est une production MSphere, solution SaaS d'analyse et de prévision pour financiers. Pour nous aider à faire grandir le podcast et continuer d'inviter des profils inspirants, laissez une note 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute et suivez-nous sur LinkedIn pour ne rien manquer de nos contenus inédits.